Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, un disque et un livre totalement hors normes. Nous sommes ensemble pour 2 heures, vous le savez, en direct, vous le savez. Et pourrez évidemment podcaster toute ou partie de l'émission, ou la moitié qui vous manque, ou un quart, ou un huitième, sur europe1.fr. Notre infomédia, avec 10 millions d'abonnés, Golden est le premier studio digital entièrement dédié aux millennials. Et pour la première fois, une de leurs créations va concourir dans un festival classique, pas forcément digital. Adrien Labastir, son patron, va tout nous dire. Le mensuel Rock and Folk, qui dégaine sa web radio, Rock and Folk Radio, ça s'appelle. On sera avec le rédac chef qui a pris la succession du mythique Philippe Manœuvre. Pour les uns, il est le cinéaste le plus ignoré et le plus maltraité du cinéma français. Pour les autres, il est le gars qui a le plus mauvais caractère de la planète, toujours à râler, victime de sa haute exigence personnelle artistique. Jean-Jacques Benex sera avec nous. Il sort son premier roman, ça s'appelle Toboggan. Ça raconte une descente, sa descente. Hélène Manarino nous fera son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Céline Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour à tous, enchanté. Comme chaque matin, on commence avec votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez en stock au programme ?
Philippe, ce matin, nous parlons du nouveau visage, du nouveau fait entrer l'accusé. On parle de Facebook et de régulation des internets, d'ultracyclisme. Et je vous propose un retour sur la première saison de Qui veut être mon associé, l'émission d'M6.
Mais Cyril, ce sont les traditions. On débute avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ?
Ils ont majoritairement regardé la série Émergence sur TF1, dont le premier épisode a été regardé par 3,5 millions de Français. Ça représente 16% de part d'audience. Deuxième position, un très bon démarrage pour la 11e saison de Top Chef. Vous en parliez hier avec Stéphane Rothenberg. Un peu plus de 3 millions de Français étaient devant l'assise pour regarder cette saison de Top Chef. Troisième position pour France 2 avec sa série Il a déjà tes yeux. Le premier épisode a été regardé par 2 200 000 personnes. C'est moins bien que la semaine dernière.
Et puis on vient de l'apprendre à l'instant, Jean Daniel, le fondateur de l'Obs, vient de décéder. Il avait 99 ans, c'était une immense figure du journalisme, il avait créé beaucoup de choses. Il était notamment l'ami d'Albert Camus. Évidemment, on va revenir sur cette disparition dans les prochaines heures et dans la journée, évidemment, sur Europe 1. On va démarrer le journal des médias avec vous, Cyril. On recevait hier Christophe Ondelatte, avec qui on parlait de Faites entrer l'accusé. On sait désormais qu'il va présenter la nouvelle mouture de l'émission.
Une information de nos confrères du Parisien. Voilà, là.
Normalement, il y avait
vous savez ce qui se passe, Philippe.
Non, ils sont restés muets.
Vous savez ce qui se passe, Philippe, c'est qu'en fait, tous les deux, on s'est dit qu'on allait changer un peu l'ordre de
on
ce
va
journal.
Changer l'ordre du... ouais.
Mais on a oublié d'en parler à notre réalisateur Nicolas Souvent, et donc ça, c'est de ma faute.
Exactement.
Et je lui présente mes excuses, et je présente mes excuses à nos auditeurs.
Voilà, je vais l'expliquer. La radio, c'est une équipe.
Et je suis confus.
On peut pas être dans son coin tout seul, sinon ça fait le PSG en première mi-temps.
Et donc, nos confrères du Parisien nous révèlent que c'est Rachid Embarki, le journaliste de BFM TV, qui sera au manette de ce nouveau fait entrer l'accusé à la sauce RMC Story. C'est lui, celui qui est arrivé au sein de BFM il y a 15 ans, va donc endosser un tout nouveau rôle. Et s'il n'est pas lui-même un spécialiste des faits divers sordides, il aura à ses côtés un expert, Dominique Rizet. Car une des nouveautés de cette nouvelle formule de fait entrer l'accusé, c'est que désormais, c'est un duo qui sera aux manettes. Rendez-vous donc à la rentrée prochaine pour voir le résultat de ce nouveau fait entrer l'accusé.
Et Dominique Rizet qui travaillait déjà avec Christophe Ondelatte dans les précédents faits entrer l'accusé. Alors en début de semaine, Cyril, Mark Zuckerberg était venu en Europe plaider pour une nouvelle forme de régulation et son entreprise Facebook a publié un livre blanc, c'est comme ça qu'on dit, sur la régulation des contenus.
Alors forcément, quand on dit livre blanc, on se dit, rien qu'avec ce mot, on commence à perdre l'attention de notre interlocuteur qui craint qu'on l'endorme dans une litanie de blabla. Alors, pour tenter d'échapper à la règle, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Facebook a publié 22 pages en anglais et ce n'est pas, c'est vrai, à la destination du grand public, mais plutôt une manière pour l'entreprise de communiquer avec les institutions politiques et les régulateurs. Et comme tout le monde a parlé de ce passage de Mark Zuckerberg en Europe, j'ai voulu savoir comment l'entreprise envisage aujourd'hui la régulation des contenus sur sa plateforme. Je suis allé dans les locaux de Facebook France et j'ai demandé à Michelle Gilbert, la directrice de la communication, de nous expliquer quel était aujourd'hui l'enjeu de cette régulation.
Si on regarde la régulation des plateformes comme Facebook, c'est vraiment quelque chose qui va impacter non seulement Facebook, mais toute l'Internet, parce qu'on est tous confrontés à se poser des questions quant aux contenus qui sont diffusé sur nos plateformes. Et nous, en fait, on voulait faire profiter à chacun ce qui est de la modération de contenu. Voilà les choses que nous avons apprises, les challenges et aussi quelques pistes de réflexion. Et nous pensons qu'on doit réfléchir à ça, pas tout seul dans notre coin, nous, entreprises privées, mais avec l'ensemble de l'industrie, avec les gouvernements et avec les régulateurs.
Facebook appelle donc à la jouer collective dans cette affaire, tout en prévenant que les frontières seront difficiles à trouver. On écoute à nouveau Michèle Guilbert, la patronne de la communication de Facebook France.
Ces questions, c'est des questions de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a et on a envie de protéger la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, de pouvoir avoir une opinion, de fonder un environnement ou dire quelque chose qu'on a envie et de faire partie des groupes dont on est passionné. Mais en même temps, on doit respecter l'autre et on doit avoir un certain nombre de règles pour ne pas tomber dans tout ce qu'on dit qui est contenu haineux. Et cette ligne est tellement compliquée à trouver. Et ce n'est pas à Facebook de faire cette réflexion toute seule.
Michèle Guilbert, patronne de la communication de Facebook France. Cyril, vous nous parliez hier des audiences plutôt décevantes de l'émission de M6 « Qui veut être mon associé ?». Vous vouliez y revenir ce matin.
Oui, Philippe, comme M6 avait beaucoup misé sur ce nouveau programme, j'ai envie de revenir sur sa diffusion et de proposer à la chaîne de faire un bilan avec nous. Alors, nous avons contacté Jonathan Curiel, le directeur de M6 en charge des magazines et des documentaires, pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé justement pour le moment des audiences. Il est interrogé par Alexandre Omar.
Nous, on en fait un bilan, si vous voulez, plutôt positif. Les audiences ont réalisé 1,8 million en moyenne sur les 6 numéros, avec une performance record sur la population jeune. Donc ça a été les 25-34 ans qui ont été particulièrement sensibles à cette thématique de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de signaux très positifs, c'est-à-dire que des retours extrêmement qualitatifs, le fait d'innover, qui est reconnu M6, et avec ce programme, on a vraiment mis l'accent sur l'innovation. Et puis beaucoup de projets à la fois éco-responsables, liés au handicap, qui ont enthousiasmé les téléspectateurs et les investisseurs. Il n'y avait pas de distinction de classe sociale. Tout le monde pouvait venir présenter son projet. Et en même temps, toute une batterie de valeurs extrêmement positives, à la fois pour notre public et pour les téléspectateurs plus largement.
Dès l'annonce de cette nouvelle émission, Nicolas de Taverneau prévenait que c'était une prise de risque pour M6. Nous avons du coup demandé à Jonathan Curiel pourquoi Qui veut être mon associé avait eu plus de mal que d'autres formats à convaincre les téléspectateurs.
On fait le bilan de cette saison, on essaie d'identifier des points d'amélioration. Là où on est quand même satisfait, c'est que c'est un programme qui correspond parfaitement à l'ADN d'M6. C'est-à-dire que de la même manière qu'avec Top Chef a créé des vocations de cuisinier depuis 10 ans, ben on avait aussi pour ambition, avec Qui veut être mon associé, de créer des vocations d'entrepreneur. Il y a sûrement des choses qui ont été pas suffisamment réglées, mais globalement, c'est un programme très positif.
Il y a quand même quelques petits bémols. Nicolas Taverneau, le patron d'M6, a annoncé qu'il y aurait bien une saison 2 de Qui veut être mon associé. Alors, est-ce qu'il faut le croire ?
Écoutez, en général, on doit croire le grand patron d'M6 qui, en général, fait ce qu'il dit. Mais à ce stade, ce que moi je peux vous dire, c'est que rien n'a été lancé pour la mise en production d'une suite à cette première saison.
Cyril, ce soir, une drôle d'épreuve sur la chaîne L'Équipe de l'ultra-cyclisme.
Les amateurs de performance sportive hors normes vont en prendre plein les mirettes. 1150 km à parcourir, 20 000 mètres de dénivelé au total. Et le tout à parcourir en l'espace de 120 heures maximum, sans voiture suiveuse et en gérant soi-même tout ce qui concerne repas et réparation. Voilà ce qui attend les 22 participants, hommes et femmes confondus, à Biking Man, une épreuve d'ultra-cyclisme donc créée il y a 3 ans et qui possède désormais son championnat du monde, une nouvelle discipline à laquelle la chaîne L'Équipe a décidé de s'intéresser et qu'elle programme même en prime time ce soir. Ce Biking Man, c'est l'idée d'un Français, Axel Carion, qui a imaginé ce concept après avoir traversé l'Amérique du Sud à vélo en 42 jours. Alexandre Omar l'a rencontré pour Culture Média. Il nous explique comment l'idée d'en faire un format télé lui est venue.
Mais en fait, la toute première course que j'ai organisée, l'objectif, c'était effectivement de montrer de la performance, montrer de la distance, montrer du dénivelé sur la finish line. Les échos, les témoignages que j'ai eus des personnes qui ont participé, qui ont réussi la toute première course Biking Man, ça a été des histoires humaines. Et c'est là-dessus que j'ai été convaincu dès le départ qu'il y avait le potentiel de partager des histoires incroyables avec le grand public. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec L'Équipe et d'avoir des gens qui sont à la fois du métier et à la fois très curieux de ce type de nouveau format qui allie à la fois le cyclisme, mais également l'aventure, l'exploration et le dépassement de soi.
Et avec ce programme, Axel Carion, le créateur du Biking Man, espère bien faire naître quelques vocations.
J'espère que les téléspectateurs, quand ils vont regarder ce documentaire, ils vont avoir envie de se dépasser et quelque part de se lancer un défi, quel qu'il soit. Que ce soit une idée, un concept, quelque chose qu'ils ont en tête depuis quelque temps et d'être inspiré par ces personnes du quotidien qui font des challenges incroyables, sans assistance, sans artifice et qui réussissent à le faire. J'espère qu'ils vont être inspirés par ces gens-là et peut-être se lancer eux-mêmes dans l'aventure, dans un défi.
Du côté de la chaîne L'Équipe, on mise beaucoup sur ce nouveau concept qui pourrait devenir un programme récurrent si l'audience de ce soir est au rendez-vous. Ce premier du genre est à découvrir à 21h05 sur le canal 21 de la TNT.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se dit à demain pour un nouveau journal des médias. Je le rappelle, la disparition qu'on vient d'apprendre de Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Obs, de l'Obs de l'Observateur, à 99 ans.
À suivre, notre info média du jour avec à l'honneur le premier studio digital entièrement dédié aux millennials, le studio Golden qui comptabilise 10 millions d'abonnés et qui est pour la première fois nommé dans un festival de séries. On va en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est leur Philippe de l'infomédia du jour.
Oui, ça a commencé par des blagues sur Internet en 2012 et aujourd'hui, une de leurs productions est sélectionnée pour concourir dans un festival. Golden, studio français de création de contenu, se présente comme le producteur français de divertissement de la nouvelle génération. Et pour en parler, nous recevons Adrien Labastir. Vous êtes le patron de Golden. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être ici avec nous. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les puristes, pour les touristes, qu'est-ce que c'est Golden ? Expliquez.
Alors, quand j'essaie d'expliquer à ma mère ce qu'est Golden, je lui dis en fait que c'est un média pour les jeunes. Elle me dit un média, mais où ça ? On est diffusé essentiellement sur les réseaux sociaux. On trouve nos contenus sur YouTube, sur Facebook, sur Snapchat, Instagram, Twitter. Donc, on fait des vidéos essentiellement. Mm-hmm. On a commencé par des sketchs humoristiques. On fait aussi des reportages, des magazines, des documentaires, des tutoriels. Donc, on traite de l'actu sous toutes ses formes, sous tous les genres.
Il n'y a pas seulement de l'humour, parce que moi, je me souviens de Poulpe et de Golden Moustache. Non, vous êtes diversifié.
Au début, on avait commencé avec Poulpe, avec McFly, Carlito. Et puis, en 2015, on avait fait un premier contenu sur l'écologie avec Nicolas Hulot. On s'était amusé à faire un sketch pour le soutenir dans son combat pour la COP21. Et les gens nous avaient dit, attention quand même, sur les sujets sérieux, les gens ne vous attendent pas forcément. Qui êtes-vous pour parler d'écologie ? Et donc, on l'avait quand même fait, parce que c'était quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Et les retours ont été tellement positifs de la part de la communauté. On a eu tellement d'engagement à ce moment-là qu'on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de, tout en gardant un ton divertissant, parce qu'effectivement, on n'est pas des journalistes à proprement parler, de parler des sujets de société qui nous touchent et qui sont ceux de notre génération.
D'accord. Juste un mot, McFly et Carlito qui seront nos invités la semaine prochaine. Pourquoi ça s'appelle comme ça ?
Golden Moustache ?
Ouais, ou Golden ? Parce que vous avez fait comme Magnum, vous avez vu sur TF1, ils ont remis un nouveau Magnum et ils lui ont rasé la moustache. Pourquoi il n'y a plus de moustache dans Golden Moustache ?
Alors, moi personnellement, je me suis rasé la moustache au bout de quelques années parce que ma femme m'a dit qu'il fallait arrêter. Golden Moustache, on trouvait ça sympa comme nom.
Attendez, c'est une blague, vous avez vraiment la moustache ?
Ouais, j'avais vraiment la moustache.
Alors, je précise aux gens, europe1.fr, vous pouvez regarder notre invité qui est Adrien Labastir et imaginer sa tête avec une moustache. Vous pouvez même la rajouter et mettre ça et poster ça sur YouTube et Golden va le reprendre. Blague à part, pourquoi vous enlevez le moustache ?
Parce qu'en fait, moustache, ça renvoyait à quelque chose de comédie, et là on va élargir un peu le spectre, on va faire de l'info. L'infotainment, c'est-à-dire on dit des choses vraies, sérieuses, mais avec un ton divertissant, parce que sur Internet, c'est plus facile de capter l'attention des gens en ayant un ton marrant, une approche un peu rigolote des sujets.
Les gens ou les millennials ? D'abord, c'est qui les millennials ? Là encore, on va s'adresser à nos mamans. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? J'ai reçu ici un auteur qui expliquait que tout ceci était du flan et une invention de journaliste. Est-ce que vous ciblez les millennials vous-même ?
Si ça se trouve, c'est une énorme arnaque, mais a priori, ça désigne les gens qui ont moins de 30 ans, les jeunes.
Qui sont nés pendant le millénaire, en 2000,
exactement.
Et qui sont très 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 versés sur Internet et qui ne regardent quasiment plus les médias traditionnels, à commencer par la télévision. C'est ça en gros.
Alors, ils la regardent encore un peu, la télévision, notamment en replay, et puis sur certaines tranches d'émissions. Mais effectivement, il y a une consommation qui est différente. C'est les gens qui regardent beaucoup les médias par leur téléphone.
Ouais.
Sur YouTube, je crois que c'est 60% de la consommation. Et puis, il y a un certain nombre de thématiques, de valeurs auxquelles ils sont plus sensibles, probablement que la génération précédente, sur l'écologie, sur l'éco-responsabilité, l'empowerment. Et donc, nous, on essaie de s'adresser à eux avec les thématiques qui leur plaisent, et dans une forme et dans une consommation qui correspond à leurs usages.
Là, on est un peu en général, on va rentrer dans le particulier. Vous êtes associé notamment à Facebook Watch, qui est un service de vidéo à la demande créé par Facebook, comme son nom l'indique, pour créer des programmes inédits autour de personnalités. On va parler d'Issa Doumbia, qui présente une série en 8 épisodes. Ça s'appelle « Dans tes rêves ». En quoi ça consiste ?
C'est Issa Doumbia qui rencontre des enfants et qui leur dit qu'est-ce que tu rêverais d'avoir, quel est l'objet, le rêve qui te paraît impossible mais qu'on pourrait faire pour toi. Et donc ils vont ensemble conceptualiser l'objet en question. Et puis après ils vont le réaliser et ça se termine, on découvre l'objet réalisé à la fin de l'émission.
On va entendre un extrait et on en reparle.
Les amis, vous allez me dire ce qu'il y a dans votre poêle.
De la ratatouille.
D'accord.
Des croquettes, des courgettes.
D'accord.
Des ongles, Des cheveux.
Ok.
Des bras, des yeux, des rats, des goûts et du caca.
Et toi, Liam, qu'est-ce qu'il y a?
Du vomi. Des crottes de nez. Du réglisse.
Du réglisse, d'accord.
Des souris.
Oui.
Des grenouilles.
Ok.
De l'acide.
Si tu bois de l'acide, tu meurs.
Et toi?
Et moi? Moi aussi, je t'aimerais pas me manger, ben ça me rassure.
C'est ça les rêves des millennials?
C'est les rêves des enfants en tout cas.
Du caca et du vomi, c'est pas possible. Vous savez ce qu'ils aiment vraiment les millennials? Est-ce que vous avez fait des études marketing là-dessus? Je n'imagine pas que la réponse puisse être non.
On n'a pas fait d'études marketing. En fait, si vous venez, on serait ravis de vous inviter chez nous. Vous verrez que la moyenne d'âge est entre 20 et 25 ans à peu près.
D'accord, donc c'est un sondage grandeur nature de tous les jours, du matin au soir.
Ouais, c'est assez naturel en fait.
Vous êtes le plus vieux?
Je suis très vieux.
Vous avez quel âge?
42 ans.
42 ans et vous êtes déjà un vieux. Vous présentez comme le second studio français de création de contenu à destination des millennials. Le second, c'est qui le premier?
Ça me fait mal de le dire, hein, mais c'est nos concurrents de l'autre côté de la scène.
Bah allez, je vais le dire pour vous, TF1. Qu'est-ce qui vous distingue des autres?
On essaye d'être très, de mettre l'accent sur la créativité, c'est-à-dire qu'on donne une incroyable liberté aux artistes et aux talents avec qui on travaille.
Vous savez que les gens de TF1 nous écoutent, ils disent tiens, donc nous, il n'y a pas de créativité et les gens avec qui on bosse n'ont pas de talent. Non mais ne faites pas cette réponse-là. Il faut quand même dire que vous êtes adossé au groupe M6.
C'est vrai.
Mais en vrai, qu'est-ce qui fait votre spécificité?
Encore une fois, nous, on est parti de la comédie, donc on a beaucoup de gens qui sont des humoristes, qui viennent du stand-up, qui ont cette culture-là, de la vanne, de l'angle un peu marrant. Et en vrai, honnêtement, on pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup vers une vraie liberté créative, vers pas trop de formatage. Et voilà.
Là, c'est moi qui vais vous formater parce qu'il faut qu'on marque une pause. On vous retrouve juste après ça.
Dans l'infomédia du jour, on parle du studio Digital Golden qui produit des contenus pour les millennials avec 10 millions d'abonnés. Et on y revient dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Le studio Digital Golden, c'est 10 millions d'abonnés et des contenus prisés par les millennials. Et pour la première fois, une de leurs créations va concourir dans un festival de séries. On en parle ce matin avec le directeur général de Golden, c'est Adrien Labastière.
Alors Golden, ça marche, vous avez plus de 10 millions d'abonnés sur vos marques médias. Je vais les citer, Golden Moustache, Wonder, Rose Carpet, Golden Pop, Golden Food, Golden News. Tiens, je me dis, il n'y a jamais un nom en français.
Non.
C'est hors de votre atteinte, ça.
C'était trop difficile.
Non, blague à part, pourquoi? Parce que c'est international?
Parce qu'en fait, on trouve qu'on veut créer des marques avec une accroche assez forte. Et on pense que ça sonne bien, en fait, tout simplement.
D'accord. Un peu à l'ancienne. Non, mais j'ai l'impression d'entendre Guy Lux. Vous savez qu'on peut sonner bien en étant en français.
C'est vrai. Mais effectivement, on a essayé de penser nos marques avec des logos, avec une appétence très forte, etc. Et je trouvais que ça sonnait bien, Golden Food.
Est-ce que vous exportez? Ou est-ce que pour l'instant, c'est franco-français?
Non, en fait, ça c'est le principe effectivement d'Internet, c'est que c'est vu dans le monde entier. Alors d'un point de vue...
J'ai mal posé ma question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens non français qui regardent ce que vous faites?
30% des gens hors de France. Notamment via YouTube, on avait beaucoup beaucoup de vues à un moment à l'étranger, et il y a des vidéos quand le thème est universel qui circulent dans le monde entier.
Dans vos nouveaux programmes, il y a également Fail, présenté par Hugo Dessioux, qui est aussi Hugo tout seul. Qui est-il d'abord avant de parler de Fail?
Hugo, c'est un des historiques de YouTube. Il a commencé avec Norman, avec Kemar, avec Cyprien. Il est très jeune, hein, il doit avoir 26 ou 27 ans. Mais lui, il a déjà 10 ans d'Internet derrière lui. Et c'est à la fois un auteur, un comédien, et il fait de la scène. Et on trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant avec qui travailler. Et lui, son idée, c'était de proposer aux gens de revenir sur leurs échecs, dans leur parcours, et comment on vit un échec, comment on se relève derrière.
Et oui, parce que ça s'appelle Fail, donc le mot échec, c'était pas possible, donc vous l'avez mis en anglais. On va écouter un extrait de Fail, c'est l'épisode avec le chanteur Bilal Hassani, pardon, with the singer.
Un fail, ça passe mieux qu'un kiff. Hein. Les gens, ils s'en foutent de voir les gens heureux à la télévision. Ils veulent voir des gens bader, ils veulent voir des gens pleurer. Et ils m'ont vu arriver, ils ont dû se dire, merde, pourquoi il sourit? Il est con, lui. Il y a un problème, il a pas compris son score. Moi, j'en ai vu des noms, des trucs, et ça veut rien dire, ça m'a pas arrêté. Hein. De vivre ou d'avancer artistiquement, The Voice Kids, j'ai pas gagné. J'ai fait X Factor en Angleterre, j'ai eu 4 oui. Simon Cowell, j'ai fait X Factor en Angleterre. Personne sait ça parce que j'ai jamais été diffusé. J'ai eu 4 oui à mon audition. Et après, ils m'ont rappelé 2 semaines après, quand je venais d'arriver à Londres, ils m'ont dit « On a dit oui à trop de gens et donc on n'a pas besoin de toi pour l'étape d'après en fait. Donc reste à Paris. » Je fais « Je suis arrivé à Londres, ils font « Dors bien et rentre demain. » Donc moi, j'ai eu v'là les noms dans ma vie.
C'est vrai que c'est dans les émissions, il y avait les tops et les flops, on attendait les flops. C'est toujours plus jouissif de voir les gens tomber que les gens se pavaner. Alors je le disais, en démarrant cette émission, on a appris hier qu'une de vos productions intitulée Couronne a été sélectionnée dans la catégorie format court au Festival International Sérimania. C'est à Lille, très très bon festival du 20 au 28 mars. Ça parle de quoi Couronne? C'est quoi l'histoire?
C'est l'histoire de deux jeunes qui viennent de la banlieue et qui ont une approche différente par rapport à ça. Ça parle de la gentrification de la banlieue. Commence à devenir de plus en plus bourgeois, et c'est l'histoire de deux jeunes qui sont confrontés au même problème, de savoir s'ils vont contribuer à déloger les gens qui sont dans les quartiers qu'ils connaissent, et il y en a un qui va le faire et l'autre qui ne va pas le faire, et ça raconte la dispute un petit peu entre les deux. Et c'est une histoire en fait qui vient de Salif Cissé, qui est un jeune comédien qui, pour la petite histoire, travaille dans la classe de théâtre de notre directeur artistique, ouais, à Nice, et qui avait envie de raconter cette histoire. Et on s'est dit que c'était vachement bien de raconter ce genre d'histoire aujourd'hui.
On va en entendre un extrait, on continue à en parler.
Les PDG, ils ont du style et ils ont du flow. Ton constat, ça fait 78 fois que tu le mets. Ah, comment il est compressé dedans. Je t'ai dit de pas le mettre, là.
Non, arrête de me stresser, s'il te plaît. C'est bon, je l'ai déjà mis de toute façon. On s'en fout, on l'a mis, je l'ai déjà mis.
Non, mais dis-moi ce qu'il a fait. Il a mis les chaussettes blanches. T'es massé chaussettes blanches. C'est blanc. Comment tu peux faire ça, gros?
Frère, il y a un rappel de couleur avec la chemise, je connais rien.
Quel rappel de couleur, frère? Et c'est le faute de goût. Arrête ça. Frère, on dirait un villageois, là.
Mais personne regarde les chaussettes.
Car tout le monde regarde les chaussettes.
Personne regarde les chaussettes.
Les chaussettes, c'est la base.
Messieurs, qu'est-ce que je peux vous servir?
De l'eau pour moi.
Plate, gazeuse.
Carafe.
C'est tourné, quel moyen? C'est équipe réduite?
Équipe très réduite. On a un budget extrêmement limité. Mais ce qui est génial, là pour le coup, quand je parlais de créativité, c'est vrai qu'on là on laisse les gens totalement libres, et donc il y a un petit peu de débrouille pour faire ça. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est une série qu'on, je trouve, qu'on pourrait pas voir aujourd'hui à la télé. Par son thème, par son ton, parce que ça raconte.
Mais là, ce qu'on entend, déjà, l'engueulade sur les chaussettes, déjà, j'avais jamais entendu ça. Trois épisodes de 10 minutes, c'est bien ça?
Ouais.
J'arrive à la question, puisque vous dites le budget est limité, c'est quoi votre business model en français? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Vous la revendez à des chaînes? Comment ça se passe?
C'est des contenus qui sont commandés par le bouquet de Orange qui s'appelle Pickle TV. C'est un bouquet qui fait de la vidéo à la demande. Il y a des contenus comme South Park, par exemple, et tout. Et nous, on a un accord avec eux pour produire chaque mois un programme court, une série courte comme ça.
Est-ce qu'on peut le voir quand même si on n'est pas sur Orange TV? Est-ce qu'ensuite vous avez le droit de le mettre sur vos sites?
Eh bien non, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas Orange TV, on met souvent le premier épisode sur une de nos chaînes gratuites pour appâter le chaland.
Ouais.
Et puis la suite, effectivement, il faut être abonné.
Vous avez vu le principe de Netflix, le mois gratuit, c'est terminé maintenant.
Et apparemment,
c'est le principe du dealer, on donne gratuit, puis une fois qu'on est accroché, hop, ça devient payant. Qu'est-ce que ça vous fait d'être nommé dans un festival de séries aussi réputé que Sérimania?
Ben on est extrêmement fiers et reconnaissants d'avoir été sélectionnés. Parce qu'effectivement, Sérimania, c'est assez incroyable. Il y a une diversité de contenu, une qualité de contenu qui est extraordinaire.
C'était là-bas l'an dernier où ils avaient annoncé la coproduction Le Bazar de la Charité entre Netflix et TF1 pour dire à quel point c'est important. Mais je veux dire par là, est-ce que vous changez de catégorie? Est-ce que vous êtes plus seulement les petits jeunes qui font des trucs vidéo pour les Millennials 2.0 ou pas encore?
Je vous remercie de poser la question. Effectivement, en 2019, nous, on a un peu changé de braquet. En plus de ce que je vous ai déjà décrit, on est devenu un producteur de télévision. On fait maintenant 200 heures de télé, à peu près par an. On produit de la fiction, du magazine, du doc, des jeux de plateau sur M6 tous les samedis, des émissions de divertissement. Donc effectivement, on est en train d'accélérer très fortement en tant que producteur. Et cette année, on va lancer nos deux premières productions de fiction de prime time.
Avec qui?
Avec M6.
D'accord. Donc financé par M6, diffusé sur M6 ou eux-mêmes diffusés sur le site d'M6 ou sur ses satellites comme W9 ou Sister par exemple?
La première va être sur W9.
Ouais.
On ne peut pas en dire grand-chose pour l'instant parce que c'était encore en train d'être finalisé. La seconde, qui est en développement, devrait arriver sur M6.
Vous êtes également associé, je l'ai dit, à Facebook Watch. Pour vos quatre dernières séries, c'est quoi le deal avec Facebook?
C'est un partenariat où on s'est mis d'accord pour diffuser dans notre marque Golden, des contenus. Il y a une contrepartie financière versée par Facebook, mais il y a une vraie volonté de Facebook de donner une liberté éditoriale. C'est pas une commande.
C'est facile de dealer avec Facebook, parce que quand vous voulez dealer avec M6 pour connaître, et je salue Nicolas Taverneau qui nous écoute certainement, c'est pas facile, ils font attention au budget. Est-ce que Facebook c'est plus facile? Parce que je me dis quand même, vous êtes tellement, tellement riche, tellement aisé, tellement opulent, est-ce que c'est plus facile?
Je vous remercie. C'est des gens charmants, qui sont très précis dans leur cahier des charges. Et comme la plupart des plateformes d'ailleurs, ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent. Et nous on partage un petit peu leur vision.
Bon, je vous posais la question à la Guirou, est-ce qu'ils sont près de leurs sous?
C'est... En tout cas, il nous donne les moyens de faire des belles choses.
Bon, vous êtes comme Giroud, vous ne répondez pas non plus. Merci beaucoup Adrien Labastire. Je rappelle, vous êtes le patron de Golden. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
On parle rock dans Culture Média avec le nouveau Rock and Folk qui sort en kiosque. La marque développe également sa web radio et on va en parler avec nos invités dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et on parle rock ce matin dans Culture Média, Philippe.
Mais oui, évidemment, on disait que la presse écrite allait mourir, on disait que le rock'n'roll allait mourir. Et bien voici le nouveau Rock'n'Folk, le numéro 631 d'un mensuel fondé en 1966 qui fait 54 ans. Bonjour Vincent Tanière.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le nouveau rédac-chef de Rock'n'Folk, vous comprendrez pourquoi je dis nouveau. À côté de vous, une figure du journal, Joe Hume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialisé dans le métal, dans la radio, les photos de petits jouets, on va en parler. D'abord Vincent Tanière, j'ai dit que vous étiez le nouveau rédac-chef de Rock'n'Folk parce que pendant 24 ans, de 93 à 2017, le rédac-chef de Rock'n'Folk, c'était Philippe Manœuvre. Est-ce que c'est facile de passer après une telle figure ou est-ce que tout le monde vous le recite à chaque fois comme je viens de le faire un peu maladroitement?
Tout le monde le recite à chaque fois quand vous venez de le faire un peu maladroitement.
Ouais, super.
Mais il est évidemment impossible de le remplacer. Il est juste question de lui succéder, ce qui était le cas. J'avais travaillé 20 ans avec lui précédemment. Donc, c'était pas très compliqué de rentrer dans ses bottes python,
ouais.
Mais ensuite de les retirer aussi, parce qu'il s'agissait pas de faire exactement la même chose. Donc voilà, la question
est récurrente. Qu'est-ce qui a changé depuis l'ère Manœuvre, si j'ose dire ?
Mais je pense que ce qui a changé, c'est l'âge où nous tous avons été sensibilisés à la musique, en fait. C'est une question d'âge. La première fois où il y a eu ce coup de poing dans le cœur. Alors ceux de sa génération, c'est forcément les Rolling Stones. Ceux de la mienne, c'est peut-être les Sex Pistols, les Cure, les choses comme ça. Donc c'est ça qui a changé, en fait. Le curseur s'est légèrement déplacé sur les années 80-90. On avait jugé que c'était plus tellement essentiel de dire « Ah, oh, les Rolling Stones, on vous aime, les Beatles, on vous aime. » Oui, ouais. Parce que ça avait été dit et c'est tellement évident. Donc nous, voilà, on s'est mis à dire « Ah, on aime les Cure, on aime Joy Division, on aime Tame Impala, on aime juste une autre génération. »
La question qui se pose, est-ce que c'est rentable? Évidemment, vous ne retrouverez jamais les scores records des 80. Je me suis replongé dans le chiffre, 130 000 exemplaires en moyenne, ça fait rêver. Mais là, maintenant, les ventes, où est-ce qu'elles en sont? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous êtes en danger? Est-ce que c'est pérenne?
C'est totalement pérenne. C'est même gagnant.
Ouais.
Les ventes, en fait, sont écroulées dès les années 80. En fait.
Ouais.
Mais depuis, sont restées assez flat, comme on dit. Et de toute façon, suffisamment bonnes, en fait, pour que le journal vive et vive bien. Gagne de l'argent, gagne des lecteurs de temps en temps. Il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet achat spontané. On n'achète pas rock et folk.
Ouais.
On achète rock et folk parce qu'il y a un tel, parce qu'il y a un sommaire, parce qu'il y a quelque chose. On ne l'achète plus justement en se disant « je l'aime, je l'achète ». Non.
D'un mot, la part d'abonnés ?
C'est 25%.
Rock and Folk se diversifie et vous lancez Rock and Folk Radio. De quoi s'agit-il ?
Ben, il s'agit en fait de quelque chose qui paraissait presque une évidence,
ouais.
En vrai. Hein. C'est donc une décision plutôt mûrement réfléchie, hein, une petite cinquantaine d'années. Donc là, on s'est dit que c'était vraiment le moment d'y aller. Et en fait, c'est donner une troisième vie, troisième voie presque aussi, à ce journal. Quoi. C'est-à-dire que le magazine restant le vaisseau amiral, bien sûr, ensuite le site internet, et maintenant la radio. Il s'agissait vraiment de faire entendre aux gens ce que Rock et Folk écoute et défend depuis des années.
Il faut dire
que
c'est une web radio, c'est pas une radio, vous n'avez pas d'émetteur FM en France. C'est juste une web radio, c'est gratuit.
C'est gratuit.
Le slogan, parce que je l'ai écouté hier toute la journée, Rock and Folk Radio, c'est plus que de la radio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus, il y a un point en route, il y a un bulletin météo, il y a quoi de plus que de la radio, en vrai?
Non, il y a le tiercé.
Ouais. Non, blague à part, qu'est-ce qu'il y a
en fait, ce qu'il y a en fait, c'est que c'est une radio qui au départ devait sonner, ce qui est le cas. On a mis des mois à mettre tout ce qu'on avait dans nos discothèques dedans. Ouais. Ensuite, c'est une radio qui se met à parler. Mmh. Qui a une matinale d'ailleurs en ce moment, c'est pour ça que le matinalier n'est pas là.
Et c'est pour ça que j'en parle pas d'ailleurs, parce que c'est pas la peine de faire de la promo à des concurrents.
Voilà, exactement.
Je suis pas non plus complètement
donné. J'aime qu'on nous considère déjà comme des concurrents.
Voilà.
Voilà. Et ensuite, c'est une radio qui vraiment, donc plus que de la radio, qui va vraiment parler, qui va s'engueuler, qui va débattre, qui va expliquer, qui va parler de certaines choses de niche quelquefois, comme le métal,
hein, ouais.
Avec notre ami Joe Hume.
Ouais.
Voilà, c'est une radio vraiment, ce sera plus que de la radio, au sens où plus que de la radio musicale, en fait, peut-être c'est ça qui manque.
La playlist est éclectique. J'ai écouté hier, il y avait Martin de Muffin, il y avait Cashmere de Led Zeppelin, il y a Lou Reed, Rageur, il y a les Zombies, je ne sais pas qui sont les Zombies, mais c'était plutôt pas mal. Comment vous choisissez? Parce qu'il y a tellement de genres, et vous le savez très bien, maintenant c'est des niches, les gens qui aiment le reggae n'aiment pas autre chose, il y en a même qui n'aiment que le ska, d'autres que. Ça devient de plus en plus pointu. Comment vous faites pour arriver à rassembler?
Il faut que cette radio soit généraliste comme le journal, en vrai. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas, les grands écarts qu'elle fait dans le magazine, c'est-à-dire de passer évidemment d'un morceau 60s noir, soul, son fantastique, un morceau punk, froid, anglais des années 80. Forcément, le grand écart a lieu, mais c'est dans ce grand écart qu'on fait l'unicité de ce son.
À côté de vous, Joe Hume, que j'ai déjà salué, vous avez une émission tous les jeudis soirs, c'est ce soir à 20h.
Oui.
C'est une sorte de journal du hard, sauf qu'il
c'est
s'agit de
ça.
Hard rock, humour. Ça s'appelle 13 Heavy, comme ouais. Heavy Metal. Racontez l'émission.
C'est une émission qui s'intéresse à tous les genres de métal, parce que finalement, quand on pense au rock...
Ah, parce qu'il y a même dans
c'est...
le métal, il y a des genres.
Bah ouais, en
c'est
fait,
là où ça devient dingue.
C'est même un des genres qui compte le plus de sous-genres, ouais. Je pense, ouais. dans la musique rock. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des émissions consacrées au métal, c'était soit vraiment le heavy metal originel de Black Sabbath et d'Iron ouais. Maiden et tout ça, soit c'était le métal moderne des années fin des années 90 avec le new metal venu d'Amérique. Et moi j'avais envie qu'on fasse enfin une émission qui rassemble un petit peu tout ça et qui aille parler à toutes les chapelles. Aujourd'hui, quand vous allez dans un festival comme le Hellfest par exemple, il y a tellement de communautés différentes qui s'y croisent et qui apprennent les unes des autres que j'avais envie d'essayer de proposer une émission qui rassemble un petit peu tout ça.
Alors c'est tous les jeudis. J'ai écouté l'émission de jeudi dernier. On a fait un florilège de la sélection musicale. Et pour faire plaisir, on commence par le commencement, Black Sabbath, parce que c'est les 50 ans. C'est ça,
les 50 ans du premier album de Black Sabbath, c'était la semaine dernière, pile poil.
Florilège.
Finalement, le journal du hard, c'était ça.
Non, mais c'était vraiment calme. Là, vous êtes bien sur le point.
Il va falloir qu'on parle.
On est tous hilars, ça débouche les oreilles. Mais là, c'est une émission de niche, quand même, franchement. Bah, parce que nous, on a monté ça, mais c'est comme ça pendant une heure. À la sortie, tu deviens complètement dingo.
C'est une émission de niche, mais finalement, là, il a été annoncé en grande pompe Rage Against the Machine comme tête d'affiche du prochain festival Rock en Seine.
Ouais.
C'est un vendeur de billets exceptionnel. Mm. Et on peut pas nier qu'en fait, ça rejoint un petit peu ce que disait Vincent, c'est-à-dire que les auditeurs, tout comme les lecteurs du magazine, je pense, ont évolué. Ont pour une partie grandi dans les années 90 avec Nirvana, avec Rage Against the Machine,
sûr,
avec
ouais.
tous ces groupes-là. Et aujourd'hui, il se passe de nouvelles choses qui sont inspirées de cette période-là et qui parlent à plusieurs générations. Donc je pense que 13 Heavy, c'est une émission qui rassemble un petit peu.
Ouais, et puis je trouve que le soir, avant de s'endormir, c'est calme.
Ça fait du bien.
Ouais. Vous restez avec nous, bougez pas.
Culture, médias et rock et folk ce matin avec nos invités. On parle de la marque qui se développe, notamment avec sa web radio, et on y revient dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nouveau numéro de Rock et Folk en kiosque, une web radio qui se développe. On continue dans Culture Média, Philippe, à en parler avec vos invités. Vincent Tanière, qui est rédacteur en chef du magazine, et Joe Hume, journaliste pour le magazine. Il anime également le jeudi à 20h, l'émission 13 Heavy sur Rock et Folk Radio.
Vincent Tanière, c'est quoi le positionnement de Rock and Folk par rapport à vos concurrents ? Qui sont vos concurrents d'ailleurs ? Best est mort, ça n'existe plus.
Best est mort, Rolling Stone va mal, les Inrecuptibles font autre chose. Bizarrement, on a tué la concurrence.
Ouais. Vous êtes les seuls sur le rock. C'est quoi vos idoles ? Je me souviens quand les Inrock s'étaient lancés, que c'était un mensuel. En gros, c'était les Smiths, Neil Young et Patrick Modiano pour
Exactement.
La littérature. Vous, c'est qui ?
Historiquement, on dit que David Bowie a été celui qui a fait le plus de couvertures.
Ouais.
Forcément, il va se faire battre maintenant. Mmh. Les Rolling Stones doivent être juste derrière lui, donc il y a quelques chances de les revoir.
Mais là maintenant, s'il y avait un artiste emblématique du nouvel esprit que vous voulez insuffler au journal.
De l'époque ?
Non, de maintenant.
Non, je pense que Kevin Parker, là, qui est en couverture du nouveau numéro, est exactement emblématique de l'époque. C'est-à-dire que cette espèce
Kevin Parker, un Australien, comment on prononce son groupe ? Tame Impala. Dans l'édito, vous écrivez ceci sur lui. Branleur, mais talentueux, délaissant un peu son psychédélisme 2.0 pour autre chose, qui n'interdit pas la drogue ? Non. Et qui va faire s'agiter dans les concerts et des festivals. Kevin Parker rend les gens heureux, les fait danser et se défoncer gentiment aussi. Je me dis, tiens, c'est le retour de l'apologie de la drogue.
Bah, c'est le retour de l'apologie de la musique de Tame Impala.
Ouais, en fait, arrêtez, c'est votre édito, je suis en train de lire.
En fait, c'est un type qui part du psychédélisme, qui est une musique réputée de droguée,
ouais,
pour aller vers une sorte de techno-dance, ouais, voilà, qui est quand même réputée être une musique de droguée également. Ouais.
Et vous
donc
savez quoi,
est au milieu.
Les grands esprits se rencontrent parce qu'on va entendre Tame Impala tout à l'heure dans la deuxième heure de l'émission, c'est le hasard, parfait, dans la chronique d'Angèle Châtelier. Il y a un PS à votre édito. En parlant de ça, quelqu'un a-t-il jeté une narine, écrivez-vous, sur la bougie créée, commercialisée par Gwyneth Paltrow? Racontez, c'est quoi cette bougie?
C'est totalement fou, c'est une bougie qui est censée avoir l'odeur de son vagin. Alors, vrai, pas vrai, j'ai l'impression
elle
que c'est vrai.
Moi, elle s'appelle « This smells like my vagina », elle coûte $75, voilà. Comment elle sent en vrai?
Et je ne sais pas. Je ne sais pas.
Dans le journalisme.
J'ai entendu parler. Non, je pense
c'est
qu'elle
con qu'elle ne fasse pas du rock parce que c'est très.
Mais c'est ce que je dis en fait. Reporté au rock, on aurait, tu vois, mon pantalon de cuir, mon haleine du lendemain de Shane McGowan, des choses comme ça. Ça ouvre des perspectives fantastiques.
Il y a quelque chose qui a changé par rapport au rock and folk que je vais tout vous raconter. Je le lisais quand j'étais tout petit, 10, 12 ans. Je lisais déjà sans parler anglais. Même j'étais à l'école, je ne savais pas. Je prononçais reggae. Je ne savais pas ce que c'était que le reggae. Ce qui me frappe, c'est que maintenant, les rockers ont grandi, ont vieilli, ont mouru. Et dans les télégrammes, il y a même les condoléances, il y a la liste des morts.
Ouais.
C'est complètement dingue. Il y a un reportage sur le fondateur du groupe Gang of Four qui est mort le 1er février d'une pneumonie. Et puis, il y a une revue de concert, comme toujours. Et alors, le titre de la page concert m'a halluciné. Il y a marqué « Une prestation courageuse malgré une hernie discale ».
Ça, hein.
Le rock, ça a bien changé.
Mais alors là, en plus, je crois que ça parle d'un groupe jeune.
Oui.
Ce qui est totalement aberrant. Mais oui, absolument. Bah, le rock, en fait, il a plusieurs, malheureusement, en ce moment, têtes, dont certaines, évidemment, disparaissent. Ouais. Et pas encore les très grosses. C'est ça qui nous fait peur. Non.
Mais il y a plein de reportages sur les groupes des années 80. J'ai l'impression de sortir du bahut. Dépêche Mode, je connaissais. Les Inmates, Edith Nylon, Wire, il faut le connaître. Wire, déjà à l'époque, il fallait le connaître.
Nouvel album.
Ouais, Bon Scott. Mais ils ont quel âge, les gars?
Bon Scott
qui est mort, le chanteur des CDC, Sam Cooke.
40 ans.
Pourquoi ce positionnement? C'est que vous avez beaucoup de goldies maintenant qui vous achètent.
C'est-à-dire que toutes les histoires ont été beaucoup racontées, les précédentes. Les ouais. histoires des groupes des années 70, des années 60 ont été racontées.
Non, mais pourquoi pas des mecs de 20 ans, 30 ans? Pourquoi raconter
ces groupes?
Parce
que je pense qu'on n'est pas encore dans la nostalgie de ça. Les groupes qui ont 20 ans, on s'est intéressé à autre chose depuis. Tandis que là, on est quand même dans des groupes qui ont 40, 50 pour certains, mais plutôt 40. Effectivement, il y a une nostalgie et il y a une grosse campagne de réédition. Ouais. C'est quand même le fonds de commerce des maisons de disques, de ce qu'il en reste, des majors en tout cas.
Et on va dire la vérité, aussi les maisons de disques qui vous achètent de la pub. Parce que ça compte aussi. Les concerts et les disques et les instruments de musique, ça fait partie de rock and folk. J'ai une question pour Joe Hume. Vous êtes toujours fan de toy photographie?
Tout à fait.
Je ne sais même pas que ça existait.
Je ne suis même pas fan, j'en fais.
J'ai découvert cet art grâce à vous. Vous savez ce que c'est?
Non, je ne sais pas.
Il photographie des sextoys. Mais non, c'est pas vrai, mais non.
Non, c'est pas
du tout. Racontez ce que c'est la toy photographie.
C'est de la photographie de figurines, de jouets, en fait, que l'on met en scène dans des. Soit en extérieur, soit en intérieur. C'est de la photo, mais de miniature.
Pourquoi j'en parle? Parce que est-ce que ce n'est pas totalement régressif, ce que vous faites?
Ah, c'est complètement régressif.
Exactement.
J'ai 37 ans, donc je ne joue plus avec les jouets. J'ai décidé d'apprendre à faire de la photo avec.
Ouais.
Donc c'est un loisir de vieux. Mais très régressif.
Exactement, comme qu'on réexhume les groupes rock et post-punk des années 80.
On parle à notre jeunesse à chaque fois.
Merci beaucoup Vincent Tanière. Je rappelle, nouveau Rock and Folk, ça sort en kiosque, la web radio, Rock and Folk Radio, vous pouvez l'écouter, mais pas trop quand même. Restez sur Europe. Et Joe Hume, très heavy, c'est ce soir à 20h.
Oui, à tout à l'heure.
Merci d'avoir été là, les gars.
Merci beaucoup. Merci
Philippe. On écoutait Marilyn Manson. Dans un instant, on poursuit une autre culture, mais juste avant, place aux digressions des radoteurs. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup,
rien. Bonjour, Gilles. Nous sommes le jeudi 20. En Belgique, il y a une boîte de nuit qui s'appelle les Jeux d'hiver.
Formidable.
Vous êtes un poète.
Oui.
Est-ce que vous pratiquez le haïku?
Oui.
Vous nous rappelez ce que c'est qu'un haïku?
C'est des petits mots.
Des petits mots.
Des petites phrases.
Des petites phrases. Oui. Il y avait une grande figure du haïku qui est Tota Kaneko, un japonais, qui avait 98 ans. Tous ces japonais meurent hyper tard.
C'est l'avantage d'être japonais.
Voici un haïku.
Allons-y.
Du chagrin plein la gorge. Je fredonne soudain, soir d'automne. Ceci est un haïku.
Ok.
Qu'est-ce que vous en avez à dire?
C'est triste.
Mais c'est un haïku.
C'est un haïku qui bastonne dans le noir.
C'est pas un haricot. Hein.
C'est un.
Vous avez dit un haricot.
Non, non.
Faites-nous un petit haïku.
Le soleil dans ton cœur illumine mes yeux, je dormirai mieux.
Pas mal. Vous ici-bas, moi un peu par là, bonheur d'être ici.
C'est bien. Cheveux au vent, mouvement de ta main, souplesse de mon corps.
Ah oui, c'est pas ma préférée celle-là.
C'est pas tout à fait un haïku.
L'heure passe doucement, je.
Non, je suis perdu.
répète doucement. C'est pas des haïkus, c'est des haïkus du coup.
Un petit dernier. Te voir marcher. Chut, debout.
Oh là là. Pourquoi vous proposez un petit dernier s'il est aussi nul que ça?
C'est très compliqué.
Alors, je pense qu'il faut arrêter les haïkus là. Hein. On va se faire haïku kiri. Dans un autre genre, il y a un chanteur qui est né, c'est Kurt Cobain.
Kurt Veil?
Pas Simone Veil. Kurt Cobain.
Cobain. Je connais pas.
Je vous demande pardon. Le chanteur de Nirvana.
Le chanteur de Nirvana.
Kurt Cobain est hyper connu.
Ouais, hyper connu.
Oui, il est mort à 27 ans. Lamborghini est mort aussi. On a parlé de Ferrari hier, et là on parle de Lamborghini. C'est tous des noms de gens qui ont donné
des noms de voitures. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une petite voiture qui s'appelle Niro.
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 Et alors?
Comme Bob. C'est Robert De Niro qui fait la pub.
Qu'est-ce qu'il a besoin de faire une pub pour une bagnole, quoi?
Ça s'appelle la Niro.
C'est n'importe quoi, parce qu'en plus la jeune génération ne sait pas qui est De Niro.
Si.
Même les ados aujourd'hui ne savent pas qui est Belmondo.
Mais c'est pas possible.
J'ai posé des questions à des ados, ils savent pas qui est Belmondo. En revanche, vous, ils voyaient vraiment bien qui vous étiez. Ça m'a rassuré.
Ça, c'est normal. Et vous parlez à qui?
C'est des ados.
Des ados que vous avez trouvé où?
Dans des lieux d'ados.
Vous fréquentez des lieux d'ados?
Mais dans les adoratoires. Un petit haïku pour terminer.
Ah oui.
Je m'en vais vendredi retrouver ce que tu dis. Nous étions que jeudi.
J'ai cru que vous allez dire nous étions grands amis.
Ah oui, non, puis terminer par nous étions grands amis. À demain, Gilles.
À demain.
À demain.
C'était Les Rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain, 9h55 et en podcast sur Europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture évidemment avec Jean-Jacques Benex. Il publie son premier roman, ça s'appelle Toboggan. C'est un roman très personnel. Il nous raconte la descente d'un cinéaste, cinéaste qui lui ressemble beaucoup beaucoup. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu évidemment. Et puis dans Les Indispensables, un nouvel album du groupe dont nous parlions justement, le groupe australien Tame Impala avec Angèle Châtelier. Et puis un livre, Le Noir entre les étoiles, ce sera avec Nicolas Carreau.